Chapitre 12. Sortant de table, je demandai un soporifique à Babington effondré et allai chercher dans le sommeil l'oubli de mes angoisses. J'étais endormi avant que Parthenop m'eût rejoint. Avant de perdre conscience, je jetai un dernier regard sur Diane et suppliai le ciel de nous venir en aide à tous trois. Je fus réveillé vers 9 heures par Clio, qui me remit en coup de vent une communication urgente et confidentielle de McLaurin. « À lire, me dit la fille, avant le retour de madame qui est partie visiter ses chiens. » En hâte, McLaurin avait griffonné au crayon ce qui suit. « Cher monsieur Darwin, hier soir, peu avant minuit, votre femme m'a attiré à l'armurerie sous un prétexte, a donné un tour de clé à la porte et m'a dit « Je voudrais vous poser une question que je n'ose poser à mon père, à mon parrain, à mon mari, ni même à Bantiviglio. Comment se fait-il donc que je sois la seule ici à suivre si mal les recommandations de la baronne Staff d'Aigremont concernant le port de la queue ? Toutes les autres queues me paraissent inertes et compassées à côté de la mienne. Figurez-vous que je viens de m'en apercevoir par hasard, peu après que papa eut brisé à dîner ce verre dans sa paume, comme si ma conversation l'avait mis hors de lui. Et la chose est si évidente que je me demande bien pourquoi je n'ai pas discerné cette anomalie plus tôt. Ce n'est pas d'ailleurs l'unique étrangeté qui me déconcerte. Depuis que j'ai eu le malheur de découvrir mon niderie rituelle, de me rappeler peu après l'incident de la tapette à souris, je sens au fond de moi un malaise croissant dont l'attente de Diane n'a pu venir à bout. Je m'interroge et les idées les plus folles me passent par la tête. Vous vous imaginez, monsieur Darwin, dans quel ennui je me trouvais. Il n'était pas facile d'improviser une réponse satisfaisante. Je crains d'avoir été plutôt lamentable. Bref, impatientée, mademoiselle Darwin m'a prié de retirer mon habit, a dénoué sa chevelure, m'a jeté le ruban, m'a tendu un pistolet Deringer vide, m'a enjoint de le ficeler au bout de ma queue par le pontet et de lever la queue à l'horizontale. Moi-même, a-t-elle précisé, je soulève un fusil avec ma queue. Charles peut vous le confirmer, dit-elle. Comme je faisais difficulté pour me prêter à cette expérience ridicule, mademoiselle Darwin s'est énervée et m'a braqué sur le ventre un autre Deringer qu'elle venait de charger. Devant mon impuissance, elle s'est écriée. « Mais enfin, combien y a-t-il de fausses queues ici ? À quoi joue-t-on ? De qui se moque-t-on ? Je n'ai jamais vu à la réflexion la queue d'une autre femme. Les femmes ont-elles seulement des queues ? Et les hommes portent-ils des queues ailleurs qu'à Kalinaos, ou bien sont-ils tous faits comme mon mari ? Vous êtes à mon service et l'on vous paye assez cher. Vous devez me dire toute la vérité, rien que la vérité. Et prenez garde, si vous y manquez si peu que ce soit, je vous envoie finasser dans l'autre monde. Papa arrangera ça. » Au point de suspicion où en était madame Darwin, et sous la menace permanente du Deringer, je n'ai pu faire autrement que de m'exécuter, m'efforçant toutefois, ne fût-ce que pour sauver ma peau, de dégager les interprétations les moins blessantes et dans les termes les plus choisis. C'est ainsi que j'ai fait valoir en particulier que l'apparition à première vue accidentelle d'une queue humaine bien conformée, loin d'être une bizarrerie inquiétante, était au contraire en harmonie avec les théories évolutives exprimées pour la première fois dès 1809 par le chevalier de Lamarck et qui avait rencontré depuis la chaude sympathie des savants les plus audacieux et les plus éclairés. Que cette queue était dans la droite et majestueuse ligne du progrès voulu par Dieu qui relie d'un trait la rose à la libellule au ouistiti, le ouistiti à l'homme bipède, et ce bipède inspiré à un surhomme qui aura peut-être les ailes pour aller dans la lune saluer le soleil levant. Qu'il fallait s'attendre à voir bien d'autres queues prochainement, Dieu voulant par là rappeler à l'humilité ses créatures privilégiées et leur donner à entendre que les animaux étaient des frères, que l'on reverrait tôt ou tard dans un nouveau paradis terrestre où les biftectes pousseraient sur des palmiers entre les sources de miel qui ne devraient rien aux abeilles somnolentes. J'ai répété, en somme, à ce sujet ce que j'avais ouï dire du docteur Babington, dont vous connaissez comme moi les opinions.
Ah, c'est après que j'ai cru bon d'assaisonner cette rêverie suspecte d'allusions enthousiastes à la divinité tutélaire pour flatter la piété de Mademoiselle Darwin et l'inciter à y chercher consolation. Qu'il existait, malgré tout un grossier préjugé contre l'équeu humaine, et chez les théologiens pour des motifs de dogmatisme superficiel qui passeraient de mode, et chez le peuple parce qu'il n'avait pas besoin de queue, d'ailes ou d'antennes pour demeurer incurablement borné à ses instincts les plus primitifs. Que la force d'un tel préjugé interdisait hélas à l'heureux propriétaire d'une queue de figurer dans le monde à son avantage jusqu'à nouvel ordre. Que tout ce qui avait été fait sur Kalinaos n'avait eu d'autre but que de protéger Lady Parthenope dudit préjugé, et que son respectueux service avait inspiré de touchants miracles d'affection et de dévouement. Que cette politique salvatrice avait été si heureusement conçue par un père hors du commun, que Mademoiselle Darwin, elle-même éclairée par une perspicace générosité, avait médité en faveur de sa propre fille un programme du même genre. Que le retour d'une telle fatalité portait à réfléchir et à se faire une raison. Que ce qui avait été jugé bon pour la fille était meilleur encore pour la mère, qui serait inconséquente de se froisser. Que la présence d'une queue chez une lady était en réalité si charmante qu'un garçon cultivé comme Monsieur Darwin ne s'y était pas trompé. Qu'il était de notoriété publique que la queue gracieuse de Lady Parthenope l'avait attiré comme un aimant séduit et retenu. Qu'il s'agissait d'un réconfortant mariage d'amour, ainsi qu'en témoignait éloquemment l'importance négligeable de la dot, qui aurait pu être 10 fois plus forte. Que le titre même de baronnet n'était que l'hommage d'un esprit délicat à la haute noblesse d'une incomparable fiancée en des circonstances qui excusaient tout. Je ne vois pas ce que j'aurais pu dire de mieux à pareille heure. Excessivement choquée et toute vaillante au début de mes explications, Mademoiselle Darwin m'a bientôt écouté avec un calme surprenant, posant parfois quelques questions pertinentes sur un point de détail, mais sans lâcher son affreux diringueur dont la gueule noire me fixait. De phrase en phrase, je m'attendais à terminer ma carrière. Après un très long silence, Mademoiselle Darwin m'a fait cette observation.
Tout ce que vous venez de me raconter est si neuf à mes yeux qu'il me faut le temps d'y songer à loisir. Mais dès à présent, une chose me paraît bien claire. On me trompe constamment depuis que je suis au monde. Et si j'ai envisagé un instant de tromper ma fille de la même façon, c'est bien parce que mon esprit avait été malgré moi impressionné et déformé par une ambiance profondément anormale. Or, quand une tromperie a cette importance et cette durée, les bonnes intentions ne comptent guère à côté de la bassesse des multiples procédés. Qu'est-ce que de bonnes intentions sans estime qui font de la bénéficiaire un objet de curiosité, une pitoyable marionnette, une bête de ménagerie dont les amours mêmes sont réglés par les dompteurs? Qu'il ait été préférable de me faire vivre à l'écart par suite de cet accident de naissance, je veux bien l'admettre. Mais pourquoi tant de mensonges? N'aurais-je pas eu de toute façon l'intelligence, la force d'âme, la philosophie suffisante pour regarder la vie en face?
Je répondis à Mademoiselle Darwin. Nous avons sans doute voulu trop bien faire, et je vous présente mes excuses pour cette bonne intention maladroite. Mais l'intelligence, la force d'âme, la philosophie que vous vous flattez de posséder aujourd'hui, n'est-ce point l'éducation de Lord Melrose qui vous en a gratifié? Je pense que de telles qualités sont en grande partie le fruit des mensonges dont vous vous plaignez un peu vite. Vous aurez été élevé à l'abri. Que seriez-vous devenu sans cet abri, commandé par la passion de vous bien servir? Mademoiselle Darwin me répondit alors de manière frappante.
Sans cet abri permanent du mensonge, j'aurais tout simplement été moi-même. On m'a privé de ma personne authentique pour m'en prêter une de fantaisie. On m'a dépossédé de moi pour me traiter en animal irresponsable. Cela ne peut s'expier ni se réparer. C'est un péché contre l'esprit.
Elle a ajouté à l'instant de me congédier.
Votre présence m'est désormais intolérable du seul fait que vous savez que je sais. La dernière dignité qui me reste dans cet enfer de bonne intention est de faire semblant d'ignorer la dégradante comédie qui se déroule autour de moi. Les comédiens doivent conserver le dérisoire plaisir de m'abuser demain comme par le passé. Puisque vous en savez trop, vous allez partir dès cette nuit pour ne plus revenir, et sans informer qui que ce soit de cette horrible conversation. Si vous étiez indiscret, de grands malheurs pourraient en découler, car il est une limite à ce qu'un animal du sexe faible peut endurer. Les autres ne me seront désormais supportables que s'ils ne se doutent point que vous m'avez tout découvert. Vous trouverez bien une excellente raison de priver mon père de vos distingués services, d'autant mieux que vous avez, dit-on, fortune faite et courtisane sur le Grand Canal.
Cette ultime déclaration me paraît de la plus extrême importance, à ce point que j'ai jugé préférable de vous mettre au courant, malgré ma promesse à Mademoiselle Darwin. Vous serez ainsi en mesure d'agir au mieux en toutes circonstances. Il m'a semblé inutile d'informer les autres qui joueront plus naturellement leur rôle s'ils persistent à croire que rien n'a changé. Jouez vous-même votre partie, sans inspirer des soupçons. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner pour reconnaître toutes vos aimabilités. J'ai dit à Lord Melrose que j'allais me reposer quelque temps à Venise. Je lui enverrai bientôt ma démission sous un prétexte avec d'autant moins de scrupules que vous serez là pour me remplacer.
J'achève ce mot sur la comète. Clio l'attend. Je serai déjà en mer quand elle vous rendra visite. Si vous avez à vous aérer les idées, Clio, qui est une experte, sera à vous quelques livres sterling. Mes vœux sincères vous accompagnent. Bon courage.
J'avais nourri des craintes si vives que cette intelligente communication m'aurait presque rassuré. Le malheur que l'on conjurait d'année en année, de jour en jour, était survenu brusquement, mais sans revêtir ce dramatique caractère que tout le monde était en droit de redouter. Comme Parthenop l'avait déclaré à Maclaurin, elle croyait pouvoir nous supporter à la condition que nous ne sussions pas qu'elle savait. Et cette exigence de sa dignité malmenée était ancrée bien profond, car elle s'était imposée à un esprit encore sous le choc d'une impensable révélation. Il était donc de première nécessité de sauver la face de Parthenope, comme disent les Chinois qui portent leur queue derrière la tête. Je devais m'efforcer de ne pas me trahir et, pour plus de sûreté, imitant la sage réserve de Maclaurin, de laisser les autres dans l'illusion que les rêves éducatiques de ma femme ne l'avaient pas conduite paradoxalement à la vérité.
Le jour où plus personne n'aurait besoin de mentir sur Kalinaos, l'humiliation de Parthenope serait si grave que l'on pourrait s'attendre à tout. Il est un point de rupture pour les hommes comme pour les aciers. En somme, l'univers de fiction imaginé et maintenu par Lord Melrose était si efficace qu'une Parthenope désabusée y voyait encore son unique refuge. Cette politique raisonnable présentait cependant un dangereux défaut. Je me privais, par la force des choses, de toute possibilité de parler à cœur ouvert avec la patiente, de dissiper d'éventuels malentendus, de développer d'aimables interprétations, selon le mot de Maclaurin, de toucher par l'ardeur de mes sentiments conjugaux un être que la poursuite de l'habituelle comédie risquait de condamner aux affres de la solitude. En but à une épreuve insensée, Parthenope allait se refermer sur elle-même, se murer dans son orgueil et dans ses songes, sans autre recours que ses propres forces, à la merci d'une crise de désespoir. À son retour du chenil, Parthenope avait l'air à peu près naturel et je me repris à espérer. Je veillais de mon côté à lui donner le change avec toute la prudence, toute l'attention possible, encouragée et réconfortée par la maîtrise de soi dont elle était capable. Son regard, d'ordinaire bien assuré, était toutefois devenu fuyant comme celui d'une bête qui cherche une issue. Puisque nous étions dimanche, nous assistâmes tous deux à la messe. Pendant la cérémonie, comme je flattais machinalement la queue de Parthenope à travers sa robe, elle eut un haut de corps, fourra sa queue entre ses cuisses et me dit tout bas avec agacement
Je viens d'accoucher et vous avez encore envie de jouer avec ma queue. A-t-on idée, à votre âge, de s'énerver ainsi sur une queue, à croire que c'est la première queue de fille que vous voyez? Les putes réglementaires de la couronne n'avaient point de queue, peut-être. Je finirai par croire que vous m'avez épousée à cause de ma queue. »
L'accusation de bestialité, quand elle venait d'un Bentivoglio, prêtait à rire, mais dans la bouche d'une parthénope, elle était troublante. Ma femme avait cessé d'être fière de sa queue et je demeurais le seul à y voir un panache. Il est dur, pour une jeune sensibilité, de fonctionner en marge du monde. Après la messe, je succombai à l'impulsion de confesser aux jésuites des secrets trop lourds pour moi et dans les formes sacramentelles pour me garantir de toute trahison. Dans mon désarroi, j'éprouvai le besoin de me confier et j'espérais un bon conseil. Les prêtres valent ce qu'ils valent, mais ils sont connaisseurs de l'âme, de ses ardeurs et de ses faiblesses, dès que le fanatisme ne les aveugle pas. Je révélai dans un certain détail à Bentivoglio la communication de McLaurin. Je m'accusai d'avoir tripoté la queue de Parthénope durant la messe, et je dus préciser combien de fois, ce qui me fit une introduction à des plaintes et à des inquiétudes quant à la toute récente réaction de ma femme, à son avenir et au mien.
« Ce que vous me racontez me navre, » me dit Bentivoglio. « McLaurin a eu de la chance de résoudre ses problèmes par la fuite. Vous devez boire sur place le calice jusqu'à la lie, une lie qui sera peut-être un alali. Parthénope vient de découvrir la nature animale de son appendice, et les mensonges dont elle peut se plaindre n'avaient d'autre objet que de la lui cacher. L'humiliation qui touche aux formes rejoint ainsi l'humiliation qui touche à l'essentiel. » Et je vous vois aussi désormais que je me désole de l'être. Si nous laissons cette pauvre enfant en proie à ses démons, son esprit risque d'y succomber. Mais si nous tentons de l'aider par une franchise intempestive qui la ferait rentrer sous terre, le remède en effet serait sans doute pire que le mal. C'est avant le mariage qu'il fallait suivre mes avis. Je crains qu'il ne soit trop tard pour faire tourner au bien les imprudences des hommes. La prière est notre ultime ressource. Dieu nous garde des ravages de cette queue. »
Un modus vivendi satisfaisant ne serait peut-être installé sans un aléa que ni McLaurin, ni Bentivoglio, ni moi n'avions prévu. Une fois bien rétabli de ses couches, et ce fut extraordinairement rapide, Parthénope se trouva physiquement incapable de me consentir le moindre baiser, la moindre caresse, à plus forte raison la moindre étreinte. Son premier et instinctif refus de se plier à ses devoirs d'épouse parut la surprendre elle-même. Je commis la faute impardonnable de ne pas me formaliser comme j'aurais dû faire d'une attitude d'autant plus étrange que j'étais rebuté à chaque tentative sans un mot d'explication. Mon absence de naturel était révélatrice et Parthénope dut se douter que McLaurin avait parlé, soupçonné dès lors tout Kalinaos d'être au fait. Elle cessa de bavarder et de rechercher la compagnie, prit coutume de chasser en solitaire et de manquer les repas de plus en plus souvent. Elle s'enfonçait de jour en jour dans un isolement sans autres issues que la folie. Maintes fois, j'ai failli serrer Parthénope contre moi, la questionner et lui dire combien je compatissais à sa souffrance, mais la hantise de déchaîner la bête me retenait. D'ailleurs, l'idée me paralysait aussi que je m'étais attribué une fausse noblesse, une fortune exagérée, 40 000 livres sterling de dot, et que ma femme était désormais fixée sur la valeur du Times de Corfou. Septembre s'écoula, marqué par une chaleur lourde et orageuse, atténuée parfois durant quelques heures par des pluies torrentielles qui trempaient jusqu'à la peau le costume d'Amazone de Parthénope. Elle avait renoncé à montrer sa queue, mais cette réserve n'était pas en rapport avec la future éducation de Diane. Parthénope se détachait visiblement de l'enfant, qu'elle semblait prendre en grippe, comme si cette naissance eût été le premier artisan de son malheur. Le matin du dimanche 30 septembre, j'eus la surprise de découvrir Parthénope au piano à queue du salon ovale, jouant de vieilles mélodies anglaises. Cette musique était sans doute une évasion nostalgique vers cette vieille Angleterre que la pianiste avait enfin désespéré de connaître. Je félicitai Parthénope, S'apercevant de ma présence, elle referma l'instrument et me dit mi-figue, mi-raisin,
« Saviez-vous que Jean-Jacques Rousseau s'était fait coincer sa vilaine queue démocrate par un abattant de clavecin ?»
Et elle partit d'un rire grinçant qui donnait mal au cœur.
« Vous savez très bien que Jean-Jacques n'avait pas de queue, pour l'amour du ciel. Cessons cette comédie qui est indigne de nous et qui va nous rendre fous tous les deux. Oui, c'est vrai. » Dès la nuit de son départ, Maclaurin a parlé, non pour se venger de son renvoi, mais croyant bien faire. À sa manière, c'était un honnête homme. Cependant, il n'a parlé qu'à moi, et je n'ai soufflé mot du secret à âme qui vive. Ce secret, ma tendre chérie, si vous le voulez bien, nous le garderons ensemble, de sorte que tout continue heureusement comme autrefois. Si vous saviez comme je vous aime, avec ou sans queue, qu'est-ce qu'une queue, après tout? Un point d'exclamation ou d'interrogation? Un prétexte à théorie contradictoire? Chacun voit sa queue à sa porte. Une queue chasse l'autre.
Je m'interrompis. Parthenope était devenue affreusement pâle tout d'un coup. Elle se leva de son tabouret et quitta la pièce sans même me regarder, mais en murmurant au passage.
Vous êtes bien le dernier à qui Maclaurin aurait dû parler.
Je n'osais la suivre, et je me le suis reproché depuis. Mais pouvais-je savoir que c'était la dernière occasion de converser avec ma chère Parthenope, et était-elle encore accessible au raisonnement ou même au sentiment? Peu de temps après, alors que j'étais sur des charbons ardents, je revis passer Parthenope en culotte de chasse, et je voulus voir en ce retour à de vieilles habitudes un phénomène réconfortant, comme la franche acceptation d'un état de fait. Mais on peut considérer les faits sous des angles bien différents. On renonce à feindre par humilité ou par hasard. À cet instant, Parthenope n'avait sans doute pas d'autre projet que de chasser à l'aise en se moquant du monde. Pourtant, sa raison était en voie de sombrer. On pardonnera à mon émotion d'offrir de cette effroyable matinée un tableau sec et précis. Le souvenir de ces heures cruciales est encore si vif, malgré les ans, que tout effet de plume ferait trembler ma main. Certaines choses ne sont soutenables que sous forme de constat d'huissier ou de médecin légiste. Parthenope était parti pour la chasse avant 9 heures, renonçant visiblement à la messe de 10 heures. À 10 heures et quart, je me décidai à gagner la chapelle. Qu'il fût anglais ou romain, Dieu pouvait quelque chose pour nous. À proximité de la chapelle, j'entends des appels angoissés qui semblent tomber des cieux. C'était l'organe lamentable d'un bandivoglio à califourchon sur la maîtresse blanche d'un énorme eucalyptus, soutane retroussée, tel un grand oiseau noir. Je n'en crois point mes yeux et lui demande ce qu'il fabrique là.
« J'y suis depuis plus d'une heure, gémit-il. Je lisais mon bréviaire auprès de cet arbre. » Quand Madame Darwin est passée par hasard en tenue de chasse, je lui reprochais de manquer la messe, et elle, subitement entrée en fureur, m'a commandé de grimper sous la menace du fusil. C'est facile, m'a-t-elle dit. Après le départ de Donegan, j'ai vécu des jours entiers dans cet eucalyptus. Le canon du fusil en bas des reins, j'ai réussi à monter par miracle, mais à présent, le vertige m'empêche de descendre. Qu'on m'apporte donc une échelle, de grâce.
Mais pourquoi diable Parthenope vous a-t-elle commandé de grimper là-haut?
C'est ce que je lui ai demandé moi-même. Elle m'a répondu, je vais vérifier si le jésuite descend du singe. Son regard faisait peur. Au secours!
L'incident était de mauvais augure. Laissant Bantiviglio sur sa branche, je cours aux écuries, fais seller en hâte un cheval facile et me précipite sur les traces de Parthenope, dont on me dit qu'elle avait pris la route de la côte en direction du petit port abandonné. Le souvenir de ces fouilles interrompues avait tout pour mettre Parthenope hors d'elle-même. Au camp militaire, la sentinelle a déserté son poste et j'en comprends bientôt la raison. La troupe d'opérette et la fille de la nourrice avaient organisé une petite fête à leur baraquement dans l'attente de la relève dont le bateau était annoncé. La salle commune avait été décorée de façon naïve à l'aide de branches vertes, de palmes et de fleurs. Un fumet appétissant d'agneaux grillés et de gratins de courgettes provenait de la cuisine jouxtant la pièce. Deux soldats ont été foudroyés à bout portant près de la porte qui avait été ouverte de confiance. Deux autres sont criblés de plomb au fond de la salle. Ces dernières victimes, affolées, au lieu de se ruer sur Parthenope pour la désarmer, lui ont laissé le court instant nécessaire à la recharge de son fusil à deux coups. Le sang coule encore sur les habits rouges et les corps sont tièdes. Dans un coin de la cuisine, la brunette de service commun a été lardée de grands coups de couteau. Le derrière est à nu et son double arrondi est dérisoirement agrémenté par la queue verte d'un long poireau dont la barbe blanche chatouille le coccyx. Les yeux sont fixes et ne distinguent plus la mouche qui s'y promène. C'est sur la place du village que je trouvais le caporal Calfiotte, fusillé alors qu'il prélevait de l'eau à la fontaine. La queue postiche a été coupée et enfoncée par le gros bout dans la bouche hurlante du supplicié. Un troupeau de chats lèche les blessures et râle à ma vue. Là aussi, il n'y a plus rien à faire. Les jambes m'ont manqué et je me suis assis un moment à l'ombre de l'église désaffectée. Cinq besogneux, déguisés en matamores simiesques et une jeune centenière galante, venue chercher fortune, sont tombés sans combattre dans une guerre absurde. Je me secoue car le pire est à redouter du côté de la villa. Dès 11 heures, je suis de retour et au lieu de rendre le cheval fourbu aux écuries, je prends pour aller plus vite le chemin qui conduit jusqu'à l'arrière de la maison, à travers parc et jardin. Éperonnant ma monture, j'entends de nouveau les plaintes de Bentivoglio, mais je n'en ai cure. Sautant de cheval au pied du perron, je suis alarmé par un fracas de matériaux brisés qui paraît sortir des salons. Soudain, deux détonations font bondir mon cœur dans ma poitrine. Au milieu du hall, les domestiques terrorisés se serrent les uns contre les autres. Un peu à l'écart, Lady Cecilia tend l'oreille avec un air de satisfaction insane. Elle me dit aussitôt qu'elle me voit « On dirait que Parthenope a retrouvé ma queue !» Le maître d'hôtel gallois se détache du groupe et me confie en tremblant « Lady Parthenope casse tout depuis une demi-heure à coups de crosse. Lord Melrose et le docteur s'efforcent de la ramener à la raison s'ils sont encore en vie. » La voix du vieux serviteur se brise. Malgré les supplications des domestiques, je marche vers la source du désordre guidé par le fracas qui vient de reprendre de plus belle. Dans les salons déserts que je traverse tout d'abord, les œuvres d'art qui présentaient des queues ont fait l'objet d'une dévastation brutale et systématique. Le Gréco est éventré. Je pousse plus avant, sur le seuil de la galerie des antiques, est allongé le cadavre de Lord Melrose, la tête emportée. Plus loin, le cadavre de Miss Tipps. À quatre pattes, derrière un sarcophage, Babington claque des dents. Et Parthenope, après avoir saccagé le produit de ses fouilles, démolit le postérieur de la Diane marmoréenne qui a payé les dettes de Canova. Avec l'inconscient courage du désespoir, je m'approche de la démente et la prie doucement de me remettre son arme. J'insiste. « C'est moi, Parthenope, votre mari. Je vous aime. » Elle me jette un regard de haine furieuse et me crie « Tu ne m'attacheras plus de fusil à la queue, salaud. Tes expériences sont terminées. » Et elle m'assomme d'un coup de crosse. Lorsque je me réveille sur une banquette du hall, Babington me fait un pansement et ça sent le brûler. Il m'explique « Parthenope a mis le feu à la bibliothèque. Les domestiques essayent de l'éteindre, mais il y a trop de livres. » Je m'inquiète de Diane et Babington me répond « La pauvre petite ne risque plus rien, elle a été étranglée. » Je m'inquiète de Parthenope, qui s'est réfugié dans le chenil. Je m'inquiète de Bentivoglio, il est tombé de son arbre et s'est cassé une jambe. Les pendules marquent midi tandis que les nuages de fumée envahissent le hall et font tousser Babington, dont le visage est agité de tremblements convulsifs. Un atroce hurlement retentit et se prolonge. Lady Cecilia passe en courant, coup de corps, avec une vélocité de jeune fille, sa robe de chambre de pilou lui faisant une tunique de flamme. Je me raccroche à la queue du docteur et je m'évanouis.